Bonsoir. Le Centre international pour la justice transitionnelle, une ONG internationale, a publié jeudi dernier à Kinshasa un rapport dénommé « Déni de justice ». Ce rapport dénonce le manquement du gouvernement congolais à son devoir d'indemniser les victimes dans la plupart des procès au cours desquels l'État a été condamné à payer des réparations. Comment analyser ce rapport du Centre international pour la justice transitionnelle ? Nous recevons comme invité Maître Guy Mouchata, chargé du programme Lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Maître Mouchata, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Kalala Mwenampala, coordonnateur de la cellule chargée de la réforme de la justice au ministère de la Justice et des Droits Humains. Maître Kalala Mwenampala, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Kabengela Ilunga, avocat expert en questions spéciales de procédure. Maître Kabengela, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le Centre international pour la justice transitionnelle a publié jeudi dernier à Kinshasa un rapport dénommé « Déni de justice ». Un rapport qui dénonce le manquement du gouvernement congolais à son devoir d'indemniser les victimes dans la plupart des procès au cours desquels l'État a été condamné à payer des réparations. Parmi les recommandations, ICTJ propose notamment de renforcer les compétences des systèmes juridiques civils et militaires et de créer un mécanisme indépendant piloté par le système judiciaire pour contrôler le paiement des réparations ordonnées par la Cour. Le point avec vous, Nadine Foulansimba.
Ce rapport s'est basé sur 4 procès qui se sont déroulés dans la province de l'Équateur au cours de périodes allant de 2005 à 2011, notamment celui relatif au pillage de la ville de Mbandaka en 2005. 90 victimes devaient obtenir une réparation de près $1 million qui, jusqu'à ce jour, n'est toujours pas perçue par les bénéficiaires. Dans chacune de ces affaires, des sérieux crimes et des violations de droits de l'homme étaient commis par des éléments de l'armée congolaise, précisent les rapports. Ce rapport épingle quelques défis auxquels la justice congolaise doit faire face. Parmi ces défis, il y a le cadre juridique congolais pour les réparations qui doit nécessiter d'importantes réformes. Le rapport dénonce aussi l'incohérence et le manque de transparence dans la façon dont les indemnisations sont calculées, les obstacles de l'ordre légal et l'ignorance généralisée des gouvernements de province en ce qui concerne leur obligation de fournir des réparations aux victimes. Enfin, le manquement général du gouvernement à respecter les obligations des paiements ordonnés par la Cour. Face à cette réalité, ce rapport formule quelques recommandations, notamment la création d'un fonds public indépendant qui sera chargé des réparations. L'incapacité du gouvernement à agir détruit la confiance des victimes dans le système judiciaire et perpétue un climat d'impunité, conclut les rapports.
Merci Nadine Foulansimba, Maître Guy Mouchata. Je rappelle que vous êtes chargé du programme Lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Pour commencer, Maître, sur quoi vous vous êtes basé pour dresser ce rapport ?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, ce rapport fait suite à un atelier que nous avons organisé en 2010 et qui a regroupé un certain nombre d'acteurs judiciaires, notamment les magistrats qui ont pris part à ces procès, mais aussi les membres des organisations non gouvernementales qui accompagnaient les victimes et les avocats qui ont assisté ces victimes. Et les résultats qui sont abordés dans ces rapports ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches supplémentaires, à part tout ce qui avait été dit dans l'atelier. Et à partir de ces recherches auprès des victimes et des autres acteurs, en élargissant le nombre de personnes justement qui devaient répondre à un certain nombre de questions, nous sommes arrivés à ces constats et aux recommandations qui sont formulées dans les rapports. Et nous ne sommes pas basés seulement sur les recherches de terrain et les déclarations qui ont été faites par les acteurs, mais nous avons nous-mêmes contacté la plupart de ces victimes qui sont organisées dans un certain nombre d'associations, du moins en ce qui concerne les victimes des pillages des Mbandaka, mais les victimes de Songomboyo, les victimes de l'Ituri sont un peu moins bien organisées, du moins c'est celles qui ont participé aux procédures. Et sur base de l'ensemble des éléments, nous avons fourni donc ces rapports qui est maintenant mis à la place publique. Et il est important aussi de savoir que la situation que nous décrivons dans ces rapports n'est pas ignorée par le ministère des tutelles qui est le ministère de la Justice, parce qu'après les séminaires, un certain nombre de recommandations qui avaient été formulées ont été réalisées, notamment des engagements qui ont été pris par le ministère de la Justice d'envoyer les bons d'engagement, excusez la tautologie, auprès du ministère des Budgets pour le paiement des indemnisations judiciaires. Mais malheureusement, dernièrement encore, je suis passé au ministère et j'ai appris que ces bons d'engagement qui dataient du gouvernement passé ont été retournés au ministère. Et j'espère bien que cette fois-ci, l'actuel gouvernement, l'actuel ministre pourra bel et bien renvoyer ces bons d'engagement pour que les victimes qui sont concernées par les procès que nous avons décrits dans les rapports puissent effectivement être indemnisées.
Alors, Maître Mouchata, quelles sont les causes qui font que le gouvernement ne soit pas en mesure d'indemniser ces victimes? Est-ce un problème de volonté politique ou un problème de moyens?
Je pense que les deux. Mais d'abord, j'épinglerai en premier lieu un problème des moyens. Un problème des moyens parce que avec le ministre sortant, il y a eu une expression de la volonté politique. À plusieurs reprises, il a déclaré que cette fois-ci, c'était fini. Les victimes, par exemple, de Songombo allaient obtenir réparation. Les victimes des pillages de Mbandaka, même s'il n'avait pas parlé des victimes de l'Ituri. Mais là, nous avons pris les quatre exemples plutôt qui sont qui ne couvrent pas toute la réalité de la République démocratique du Congo, mais seulement un échantillon. Et je pense que les cas qui concernent les crimes les plus graves sont légion. Et le gouvernement doit pouvoir répondre à cette obligation. J'ai dit un peu moins un problème de volonté politique, mais on le verra encore actuellement avec l'actuel gouvernement s'ils vont se lancer dans ce processus, mais aussi un problème de moyens, parce qu'il ne faut pas tout mettre aussi sur le dos du ministère, dans la mesure où on sait que le budget qui est consacré aux indemnisations est vraiment très limité. Et nous ne nous arrêtons pas seulement à dire que le gouvernement ne paye pas, mais une action de plaidoyer est menée par les organisations qui accompagnent les victimes vis-à-vis du Parlement, afin que le budget qui est dédié à l'indemnisation des victimes soit substantiellement augmenté, de telle sorte que le gouvernement soit capable de pouvoir honorer cette facture, et notamment en ce qui concerne les crimes graves.
Maître, dans le rapport, vous parlez également parmi les causes, vous citez également le fait qu'il y ait une conscience limitée du concept de réparation au-delà de l'indemnisation. En termes simples, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Cela veut dire simplement que il y a eu une évolution au niveau du droit, je dirais au niveau du droit pénal international, dans la mesure où la notion de réparation liée simplement à la compensation a évolué. Et cette évolution est consacrée de manière particulière dans les statuts de Rome, où nous avons des modalités de réparation qui dépassent la compensation. Nous avons aujourd'hui des formes de réparation qui concernent la réhabilitation, des formes de réparation qui concernent la restitution, des formes de réparation qui concernent la réparation collective et même des réparations symboliques. Mais dans notre code de procédure pénale actuellement, et quand on parle de réparation, et le terme qui est consacré, je dirais, c'est l'indemnisation. L'indemnisation veut dire simplement une compensation financière. Mais en regardant de près le contexte qui est le nôtre et la nature des crimes qui ont été commis, nous avons des crimes qui sont de nature collective. Et je vais prendre l'exemple du procès Lubanga et en me référant à la Cour pénale internationale où vous avez les juges qui ont ordonné un assessment, c'est-à-dire une étude, je dirais, de terrain, une étude de base pour voir comment on peut répondre à des crimes de masse, à des crimes de masse où il y a un nombre très très grand de victimes, et comment on peut répondre à des besoins de justice réparatrice par rapport à ces victimes. Merci. Et dans de tels cas, on a besoin de dépasser la notion de réparation-compensation pour intégrer les autres formes de réparation. Et je pense Merci. Que notre code civil, livre 3, qui consacre justement la notion de réparation en son article 258 et suivant, doit pouvoir évoluer et que nous devons évoluer vers, en intégrant dans notre législation, des formes de réparation qui sont aujourd'hui plus adéquate à des pour répondre à des besoins de justice des populations qui ont fait face à des crimes de masse.
Maître Kalala Mwenampala, vous êtes coordonnateur de la cellule chargée de la réforme de la justice au ministère portant le même de la justice et des droits humains. Comment vous avez reçu ce rapport?
Mais vous savez, un rapport, lorsqu'on le fait, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il peut y avoir des éléments objectifs, comme il peut y avoir des éléments tout à fait sentimentaux ou même subjectifs, de sorte qu'il faut absolument une analyse apaisée et pour pouvoir dégager les éléments objectifs et voir ce que on peut honorer et ce que on ne peut pas honorer. Évidemment, lorsque un rapport arrive, il doit être absolument être étudié. Il doit être étudié. Ce n'est pas parce qu'on a déposé un rapport que vite on l'exécute. On doit étudier ce que réellement les décisions qui ont été prises sont justes. Est-ce que réellement la créance est due? Est-ce que les victimes sont correctement identifiées? Tous ces éléments demandent toute une étude. Et lorsqu'on arrive à dégager que telle ou telle personne a droit à telle indemnisation, à telle réparation qu'elle est juste, et que l'État a des moyens, à ce moment-là, on peut donner satisfaction à ce genre de rapport.
Alors, ces rapports étaient intitulés « Déni de justice », Maître Kalala. Vous êtes avocat, est-ce que vous confirmez ces faits?
Déni de justice concerne ceux qui doivent rendre justice. C'est-à-dire les magistrats qui sont sollicités justement pour dire la loi sur des cas bien précis qui leur sont soumis et que sur tel ou tel autre point, les magistrats s'abstiennent de faire le travail, de dire le droit ou de se prononcer sur un point de l'objet du litige. Là, il y a déni de justice, mais je ne pense pas que dans les cas qui nous concernent ici, où il y a eu, c'est pas en Bandaka, des cas de crimes qui se sont déroulés là-bas, qui ont été jugés, qu'il y ait eu déni de justice. Je ne pense pas. Et s'il y en a eu, je crois que toutes les voies sont encore ouvertes à toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent soumettre leur cas et que ça soit examiné et qu'une réponse judiciaire soit donnée, et alors il faut que la réponse que l'on donne soit conforme à la loi, et que même les indemnisations que l'on donne soient dans les proportions qui sont acceptables judiciairement, et même, j'irais même plus loin, légalement. Parce qu'il faut savoir que très souvent, il y a parfois de la fantaisie dans les montants qu'on alloue. On va même jusqu'au-delà de ce qui est tout à fait normal.
Alors, Maître Kalala, pour qu'on ne se perde pas dans des considérations juridiques, judiciaires, dans tous ces procès dont parle le rapport de la justice transitionnelle, le jugement était définitif. 90 victimes devraient obtenir une réparation de près $1 million qui, jusqu'à ce jour, n'est toujours pas perçue par les bénéficiaires. Maître Mouchat en parlait tout à l'heure. Le gouvernement ne sait pas honorer toutes ces factures. Quelles pourraient être les causes d'après vous?
Il y a plusieurs causes et je crois qu'il en a cité certaines. Il y a des difficultés qui existent et puis il y a l'identification exacte. Parce que, comme vous le dites, $1 million à autant de personnes qui ne sont pas identifiées. Il faut absolument vérifier. Ce n'est pas parce qu'on a amené un nombre de personnes et qu'on leur a donné la qualification de victime que directement on doit débloquer le 1 million. Non, ça doit être vérifié cas par cas, de sorte que lorsqu'on en sera convaincu, on pourra évidemment régler ce genre de choses, mais avec beaucoup de réserves, parce que très souvent, si les décisions ont été fantaisistes, vous comprenez là que on risque de se retrouver dans des cas d'escroquerie au jugement, mais je ne pense pas que ça soit ainsi. Et dans la plupart des cas, si c'est juste, je crois que l'État pourra voir et échelonner, bien sûr, parce que l'État a d'autres charges plus programmées. Celles-là, elles viennent à l'improviste parce que l'État n'a jamais prévu qu'on condamnerait à tel montant excessif, par exemple, par rapport à ses charges à lui. Donc voilà un peu, je ne pense pas qu'il y a une mauvaise foi, une volonté, comme on dit, une absence de volonté de payer. Ça serait une... Je ne pense pas que ça soit vrai.
Alors, Maître Mouchat a aussi parlé de la législation congolaise qui devrait évoluer en matière d'indemnisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Kalala?
Bon, écoutez, il y a des terminologies, la terminologie peut évoluer, changer, mais la réalité est la même. Lorsqu'une personne a subi un préjudice et que ce préjudice a été constaté par la justice et qu'on a ordonné la réparation, toutes les formes sont possibles. D'ailleurs, cela dépend lorsque la réparation a déjà été cristallisé dans un jugement, la personne a toujours toutes les possibilités de donner la forme qu'il aimerait donner à la réparation attendue. Donc ça peut être des sommes d'argent, ça peut être de la réhabilitation comme cela est dit, mais la législation justement actuelle telle qu'elle est, elle permet justement une réparation qui soit la meilleure pour la personne qui est victime de tel ou de tel autre cas.
Voilà, nous allons prendre pour vous, Maître Kalala, cette réaction qui nous vient de Kambove au Katanga.
Émile Kingombe, à Kamove, dans la province du Katanga. La faute incombe au ministère de la Justice qui ne prévoit pas une ligne budgétaire lors de la présentation du budget au Parlement.
Réaction, Maître Kalala.
Bon, mais évidemment, c'est facile de dire que la faute incombe au ministère. Vous pouvez élaborer un budget, vous le présentez, il y a une analyse de cela et il y a le vote au niveau du Parlement. Si ça ne passe pas, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Vous comprenez? Mais dire que au niveau du ministère, il n'y a pas de volonté de vouloir programmer les réparations, les sommes importantes pour ce genre de réparation, je ne pense pas, mais tout dépend du pouvoir législatif.
Maître Kabengela Ilunga, vous êtes avocat, également expert en questions spéciales de procédure. Maître, comment vous analysez ce rapport?
Merci pour la question. Je note premièrement que le terme déni de justice n'est pas approprié. Et il aurait fallu qu'on parle de l'inexécution fautive des décisions juridictionnelles par l'État congolais en tant que civilement responsable. Lorsqu'on se mettra là nous sommes d'accord avec mon estimé confrère Maître Kalala Mwenampala, lorsqu'on se met d'accord sur ce point, nous allons conclure qu'il y a plusieurs voies qui s'ouvrent directement aux victimes de l'inexécution fautive des décisions juridictionnelles par l'État congolais. Ces victimes-là peuvent saisir une fois de plus les instances juridictionnelles pour obtenir la condamnation de l'État congolais en réparation des préjudices résultant de l'inexécution fautive des décisions juridictionnelles. Ils peuvent également saisir les instances internationales auxquelles notre pays est parti pour pouvoir obtenir la condamnation de l'État congolais pour pouvoir exécuter les décisions rendues par ses propres juridictions ou par les juridictions internationales. Cela étant dit, il y a le problème effectivement qui se pose au niveau de notre gouvernement. C'est comme un des intervenants l'a dit, et même Maître Guy Mouchata l'a dit également, c'est le manque de volonté. L'État congolais ne prend pas au sérieux ses engagements. Mais lorsque ce sont des privés qui sont condamnés, les structures de l'État se hâtent à pouvoir exécuter les décisions. Mais le même fonctionnaire de l'État, lorsqu'il s'agit de l'État en tant qu'institution publique, ne met rien en mouvement pour pouvoir mettre les bénéficiaires des décisions juridictionnelles à même d'en bénéficier. Il y a d'abord un problème de défaut de volonté politique dans les animateurs des institutions. Il y a un intervenant qui a parlé de défaut par le ministère de la Justice de présenter une ligne budgétaire destinée aux réparations. Il a raison. Mon estimé confrère a dit que c'est la compétence du Parlement. Mais pour que le ministère de la Justice puisse se dédouaner de cette charge, il suffit pour lui de prouver que pour telle année budgétaire, le ministère de la Justice a présenté une ligne budgétaire destinée à la réparation de préjudices, à l'exécution des décisions juridictionnelles, et qu'arrivé au niveau du Parlement, le Parlement n'avait pas suivi le ministère de la Justice à ce moment-là, le ministère de la Justice pourrait se dédouaner de sa responsabilité. Mais à défaut de prouver cela, je pense qu'il y a problème de défaut de présentation de cette ligne budgétaire. Maître Mouchat a parlé également de problèmes de manque de moyens. Je ne pense pas que notre pays, notre gouvernement puisse manquer de moyens financiers pour pouvoir exécuter ses propres décisions. Parce que nous avons pour preuve, les grands possédants de ce pays, lorsqu'ils gagnent des jugements, ces jugements sont vite exécutés par l'État. On peut vous citer des cas, mais par pudeur, je préfère ne pas citer des cas de bénéficiaires de jugements qui appartiennent à des familles de lentilles qui ont été payées alors que l'État a été condamné et l'État a été pressé à pouvoir payer.
Et donc il y a une vitesse, une justice à double vitesse.
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, Maître Kabengela, le rapport dénonce également l'incohérence et le manque de transparence dans la façon dont les indemnisations sont calculées. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je partage ce point de vue. D'ailleurs, j'ai vu les trois cas qui ont été présentés. Vous verrez ceux qui sont au nom de quatre victimes avec un montant de plus de $200,000. Et lorsque vous trouvez 19 victimes, vous trouvez un montant à peu près de quelque chose de 100, je n'ai plus bonne mémoire, mais sinon un montant inférieur à ceux alloués au petit nombre de victimes. Et puis, la plupart des jugements pêchent par l'incohérence dans les éléments d'appréciation de la réparation. En effet, nos juges ne disent pas pour tel préjudice. Les éléments d'appréciation sont tel, et le raisonnement du juge aboutit à allouer un tel montant. Souvent, ils disent, la plupart des jugements disent exequit bono, c'est en équité. Pour tout préjudice confondu, on alloue forfaitairement. Or, lorsqu'on présente des éléments objectifs au juge, le juge ne peut plus statuer exequit bono. Il doit dire pour tel préjudice moral, c'est tel montant, pour tel préjudice matériel, c'est tel montant, pour tel préjudice d'esthétique, c'est tel montant, pour tel préjudice financier, c'est autant. Donc vous trouverez que nos jugements, la plupart, pêchent par défaut d'appréciation objective de préjudice.
Maître Guy Mouchata, vous avez suivi vos confrères, Maître Kalala Mwenampala ainsi que Maître Kabengela, qui sont d'accord par rapport au fait que le titre de ce rapport, déni de justice, n'est pas très adapté. Commençons par là.
Bon, je pense que mes confrères se mettent dans la perspective juste de notre profession d'avocat, où l'expression déni de justice dans son sens étymologique et dans son sens premier veut dire un manquement de la part des magistrats de pouvoir rendre justice. Mais je vais vous expliquer notre perspective. À quoi sert la justice en définitive? La justice sert à réhabiliter la société et les victimes qui ont fait l'objet des préjudices dans leurs droits antérieurs. Pour la société, c'est de reclasser les personnes Et là, pour la victime, c'est de voir que le préjudice qu'elle a subi a été effectivement réparé. Donc, restituer la personne dans l'état où il se trouvait. Alors, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez, je ne prends pas seulement les cas qui concernent les graves violations des droits de l'homme, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Je ne vais pas parler du génocide que personne n'accepte ici, ni du point de vue de la communauté internationale, alors que vous savez le nombre de victimes que nous avons au pays depuis déjà plusieurs décennies. Mais du point de vue des victimes, à quoi sert-il de participer à une procédure judiciaire et au terminus, la victime n'obtient rien? De la perspective des victimes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement déni de justice. Ce que je vais d'abord dire à mes confrères, c'est que les cas que nous avons présentés dans les rapports, ce ne sont plus des cas discutables, ce sont des cas qui sont coulés en force de la chose jugée. C'est-à-dire que l'État doit réparer parce que l'État a été condamné. L'État a toutes les possibilités. Et si vous voyez dans les rapports, il est même fait recommandation justement à l'État de prendre les précautions pour avoir des avocats qui participent à des procédures lorsque l'État est cité comme un civilement responsable. Dans les cas actuels, notre perspective, c'est effectivement de renforcer le système judiciaire. Notre perspective, c'est de renforcer le système judiciaire à tous les niveaux. Si l'État apprend qu'il y a un tel cas qui se passe en Mbandaka et à Lubumbashi, là nous n'avons évoqué que des cas qui concernent Mbandaka et Bunia. Mais les cas sont légion. Il y a des rapports qui sont la plupart des cas qui se sont passés pratiquement dans tous les pays et qui concernent les crimes les plus graves. Nous ne parlons pas des crimes ordinaires. On ne parle pas d'un voleur de poule, on ne parle pas d'un voleur d'une chaise, on parle des cas de masse où il y a eu par exemple de viols massifs, où il y a eu des meurtres en série. Et les cas est appelé à responsabilité comme civilement responsable. Nous nous situons avec cette terminologie du point de vue de la finalité de la justice, de restaurer les individus dans leurs droits. Mais ce qui est plus grave, même dans le deuxième volet ou le premier volet qui concerne la société, la plupart des gens qui ont été condamnés dans ces procès se sont évadés. Je ne sais pas, monsieur le journal, si vous comprenez le désarroi des victimes. Et nous travaillons dans le sens de renforcer la capacité du ministère, la capacité du gouvernement à rendre justice pour que le système judiciaire national soit capable de répondre et de manière efficace à des besoins de justice. Donc, le terme déni de justice, il faut le prendre, pas dans son sens étymologique, mais dans le sens qui concerne la perspective des victimes, c'est-à-dire des victimes qui ont participé à des procédures. Et si vous avez vu notre communiqué de presse, nous avons repris la situation d'une dame qui se trouve aujourd'hui en Mbandaka, qui a été victime de viol pendant ses pillages. Elle a perdu 66 dollars qui constituaient son fonds de commerce, mais en plus, elle a perdu son mariage parce que avec ses 5 enfants, il a abandonné Alice. Elle était devenue la femme de violeur. Et cette femme qui a attrapé le VIH-Sida a obtenu en tout 5 000 $, si je ne me trompe pas, comme indemnisation. Merci. Et ça fait combien d'années? Et je ne vous dis pas les parcours. Ces gens-là ont une capacité de résistance et une capacité de plaidoyer auprès des autres que mes confrères peut-être ignorent.
Merci,
ces personnes sont capables de rencontrer même les autorités pour leur présenter la situation. C'est ce qu'elles font. Mais au jour d'aujourd'hui, ces personnes sont des personnes démunies.
Merci, donc, maître. Merci, maître. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Maître Kalala, les condamnés s'évadent et finissent par, dans certains cas, constituer même un danger pour les témoins et les juges.
Effectivement, c'est un danger lorsque une personne s'évade. Et vous savez que lorsque les personnes sont arrêtées, elles déploient toutes les manœuvres possibles avec la complicité de plusieurs personnes aussi dans ce lot-là pour pouvoir échapper à l'exécution de la peine. Et cela, c'est les citoyens qui sont... si vous voulez, commis à cette tâche-là de garder tous ces messieurs condamnés qui ne font pas leur travail. Il faudrait que chacun là où il est, faisant ce qu'il doit faire, il doit le faire avec conscience pour empêcher ce genre de cas d'évasion. Et même dans la société, lorsqu'une personne a été condamnée et que vous la revoyez en circulation, mais vous devez dénoncer pour que cette personne soit reprise. Évidemment, actuellement, vous verrez les gens vous dire « Non, ça, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'État, il y a cette démission-là. » Chacun doit participer à ce que l'État soit fort, soit, efficace. Mais si chacun se démissionne, vous comprenez que le problème reste entier. Et tout à l'heure, j'avais entendu le confrère parler de décisions qui ont été coulées en force de choses jugées. C'est vrai. Mais juger comment, parfois? Parfois, c'est mal jugé. Parce qu'on dit tout simplement, ça a été, et il y a eu les décisions coulées en force de choses jugées. Il faudrait que cette chose-là qui est jugée soit jugée conformément à la loi. Si ce n'est pas jugé conformément à la loi, vous comprenez qu'il y a une dérive et le juge qui n'a pas respecté la loi et qui a peut-être utilisé des artifices pour pouvoir arriver à l'indemnisation, vous comprenez que là, il n'y a pas une base solide. Il suffit pas seulement d'avoir une décision. Il faut qu'elle ait été prononcée conformément à la loi qui existe et aux éléments du dossier. Sinon, c'est une décision judiciaire, c'est vrai, mais qui n'a pas été rendue conformément au serment du magistrat et conformément à la loi et conformément à l'attente de la population. Mais s'il y a des sommes qui sont allouées à une personne et qu'elles sont justifiées, là, elles doivent être payées. Mais pas, comme disait tout à l'heure le confrère Kabengele ici, en disant que il y a l'indemnisation parfois qui intervient, ex aequo et bono. Donc on ne détermine pas les éléments objectifs. Parfois même on vous dit, faute d'éléments objectif, nous allons tel montant. Il y a une contradiction. Parce que pour pouvoir condamner, allouer un montant, il faut avoir des éléments objectifs. Et même cette histoire de ex aequo et bono, ça vient du décret, plutôt de, je crois, du décret de 1886, lorsque rien n'a été prévu. Mais est-ce que ce texte-là est en cours d'application? Par rapport à la Constitution actuelle et par rapport à l'article 221 de la Constitution actuelle qui dit que pour autant que les textes antérieurs ne soient pas contraires à l'actuelle Constitution, ils demeurent d'application. Il y a un problème.
Nous allons prendre pour vous, Maître Kalala, cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Pierre Finan Okoko de Bukavu au Sud Kivu, je crois que nos juges sont aussi à la base des non-indemnisations des victimes par l'État congolais, car ils condamnent souvent ces derniers à des sommes plus colossales, sans même tenir compte du budget national voté par les députés.
Brève réaction, Maître Kalala.
Mais voilà un citoyen qui a un contrôle du comportement des magistrats. Mais écoutez, aujourd'hui, vous allez allouer à quelqu'un $1 milliard contre l'État congolais. Mais ça signifie que vous n'avez absolument rien alloué à ce monsieur et vous avez tout simplement voulu impressionner ce monsieur parce que vous savez que l'État congolais ne va pas exécuter une telle décision. Elle est contraire à la morale, elle est contraire à beaucoup de principes. Donc vous n'avez pas quantifié, vous n'avez pas réglé les choses comme elles devaient se régler. Et là, c'est un mur. Ça, c'est une exécution presque impossible. Ça.
Maître Kabengele Ilunga, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Lala, depuis Kolwezi au Katanga, je pense que l'un des mots qui ronge la gestion des faits judiciaires dans notre pays, c'est la conception et par là l'application même de la démocratie. Parce que la démocratie consacre la séparation du pouvoir. Et là, lorsque l'État se fait juge et partie, rien de bon ne peut s'attendre.
Réaction maître, avant que l'on attaque les recommandations de ce rapport.
Merci, le compatriote a raison. C'est ça d'ailleurs le point de discorde entre le rapport et le ministère de la Justice. Une décision coulée en force de choses jugées doit être exécutée. Il n'appartient pas à l'État congolais d'exciper de l'illégalité d'une décision pour ne pas l'exécuter. Parce que le voie pour attaquer une décision illégale sont indiquées. Le défaut pour l'État congolais d'attaquer une décision qu'il croit teintée d'illégalité, lorsque ces voies-là sont forecloses, les décisions ne peuvent qu'être exécutées. C'est ça le problème. Donc la séparation du pouvoir. Lorsque le pouvoir judiciaire a déjà décidé, le pouvoir exécutif ne peut pas s'opposer. C'est ça même l'esprit de l'article 151 de la Constitution. Le pouvoir exécutif ne peut pas s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Donc Maître Kala, qui est près du ministre de la Justice, devra conseiller celui-ci de pouvoir exécuter toutes les décisions coulées en force des choses jugées. Bon, mon confrère Guy Mouchata est revenu sur sa terminologie, mais je pense la doctrine ainsi que la législation n'a pas encore évolué par rapport au concept d'aîné de justice. À quoi sert-il à une victime de participer à une procédure et ne rien obtenir à la fin? Non, lorsque nous arrivons au niveau de l'exécution d'une décision et qu'il y a des obstacles qui s'élèvent, on ne parle plus de données de justice, on parle de l'inexécution fautive d'une décision de justice et les voies pour contraindre l'État existent.
Voilà, Maître, j'ai parlé tout à l'heure des recommandations. Le rapport recommande notamment d'établir un fonds public pour les réparations à destination des victimes, essentiellement basé sur les contributions de l'État. Comment vous analysez cette proposition?
C'est une bonne proposition que nous devons saluer parce que la justice génère des recettes. Il y a des condamnations. Si l'on veut que tous ceux qui sont condamnés à quelque titre que ce soit pour avoir commis des infractions, soit les infractions de droit commun, soit les infractions de droit international, que tout ce que ces gens-là payent soit constitue un fonds propre destiné à la réparation des préjudices, je pense que ça sera une avancée dans l'administration de la justice.
Une autre recommandation, Maître, c'est renforcer les compétences des systèmes juridiques civils et militaires.
Je salue, d'ailleurs récemment, je viens de participer à une formation sur le système d'indemnisation des victimes, et je pense que les magistrats militaires qui étaient avec nous là-bas, nous avons tous reçu des formations adéquates pour que plus jamais, lorsqu'il y en a des éléments objectifs, on ne puisse pas se réfugier derrière l'expression ex aequo et bono. Permettez-moi de revenir sur les cas des condamnés évadés. Mais qu'est-ce à faire à la réparation des préjudices? Parce que pour que l'État soit tenu pour responsable à la réparation, le juge doit soit condamner in solidum, c'est-à-dire l'un à défaut de l'autre. Soit c'est préposé, soit l'État, le bénéficiaire du jugement, peut recouvrer sa créance auprès de l'un de deux. Soit il condamne l'État et c'est préposé solidairement. Solidairement, premièrement, le bénéficiaire du jugement doit commencer par tenter de recouvrer sa créance auprès du préposé. C'est lorsque le préposé sera trouvé dans une condition d'insolvabilité, avec preuve de l'insolvabilité du préposé, c'est alors que le bénéficiaire du jugement pourra maintenant aller faire du recours auprès de l'État. Alors, la plupart des jugements ne spécifient pas si c'est solidairement ou in solidem. Ce sont des expressions qui traduisent deux réalités différentes. Donc, la personne condamnée s'évade. Ce n'est pas sa présence en prison qui constitue une garantie d'exécution. Parce qu'on ne va pas exécuter sur sa présence en prison. C'est sur ses biens ou sur le bien de son commettant qui est l'État.
Voilà, je vous signale qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission, donc j'aurai besoin des réponses très brèves. Maître Mouchata, en parlant des recommandations, vous proposez notamment au ministère de la Justice de déclarer les dommages et intérêts accordés aux victimes auprès du service des contentieux.
Oui, mais je pense que cette étape avait déjà été faite pour les cas que nous citons dans les rapports, parce que j'ai vu un un des conseillers des ministres qui m'a dit que les cas qui avaient déjà fait l'objet d'un bon d'engagement, le bon d'engagement est revenu, c'est-à-dire que ça n'a pas été exécuté. Ce que nous voulons, c'est d'abord que ce cas-là soit exécuté pour donner un exemple très fort de la lutte contre l'impunité. Mais en plus, nous formulons un nombre de recommandations très, très importantes, et c'est ça le plus important pour les rapports. Ce n'est pas seulement de notre part de vouloir analyser le système et dire ce qui ne marche pas, mais le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que le système marche. Et quand vous voyez là, les recommandations concernent non seulement le gouvernement, mais concernent aussi la communauté internationale qui intervient dans le domaine du secteur de la justice, concerne en particulier les magistrats. Certes, nous n'avons pas le temps d'intervenir sur ce que font les magistrats, parce que une allocation extra-équitable de dommages et intérêts n'est pas constitutionnelle. Cette décision peut être cassée, mais une fois que la décision a été coulée en force de la chose jugée, on n'a rien à faire. Nous sommes tous des légalistes, nous sommes des avocats, nous sommes des juristes, nous sommes des citoyens républicains. Une fois qu'une décision est devenue définitive, personne
merci,
ne peut transiger sur cette décision. Il faut l'exécuter. Il y va de la sécurisation juridique, de la sécurisation de la société. Sinon, merci, si la justice ne peut pas, personne ne peut être sécurisé par la justice.
Voilà, il nous reste vraiment très peu de temps, Maître Kalala, puisque Maître Kabengela a évoqué tout à l'heure un problème de volonté politique. Il y a certains jugements qui sont très vite exécutés par rapport à d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait pour booster cette volonté politique?
Bon, écoutez, s'il y a d'autres personnes qui vont, en utilisant leur poids peut-être politique ou social, je ne sais pas de quelle manière, où ils interviennent dans cette filière-là qui doit payer en faisant des promesses, disons les choses telles qu'elles se passent souvent, et je pense qu'il ne faut pas qu'on en fasse un problème. Tout citoyen a le droit à être payé et il doit suivre la filière telle qu'elle se passe. Mais il y a un problème ici, c'est que toutes les décisions, comme on l'a dit tout à l'heure là, qui viennent, mais elles doivent être analysées pour savoir si ça a été, ce n'est pas une escroquerie au jugement, parce que on peut venir avec des tromperies et on donne un montant assez important et l'État ne peut pas être tenu. Toujours à ce genre, on doit vérifier. Et si une décision intervient, évidemment, elle est correcte, on peut
l'exécuter.
Alors, si c'est dans les proportions normales.
Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir en un mot par rapport à ce rapport, pour vous?
Par rapport à ce rapport, je pense que il faudrait que tous nous fassions un effort collectif, que le magistrat soit réellement magistrat, qu'il ne soit pas un coopérateur.
Merci. Maître Kabengela, en guise de conclusion, j'ai parlé tout à l'heure de booster la volonté politique. Qu'est-ce qu'il faudrait à ce niveau-là pour vous?
Donc, les animateurs de notre pays doivent cultiver le sens du respect de la Constitution, notamment l'article 151 qui impose aux institutions de respecter les compétences respectives des autres institutions. Il n'est pas bon dans notre pays que pour certaines décisions que les instances internationales interviennent. Vous vous souviendrez que pour le cas de 2006, il a fallu que l'Union interparlementaire prenne une décision pour que ici on puisse payer. Dernièrement, pour les députés qui ont été invalidés, la Cour suprême n'avait pas suivi. Maintenant, l'Union interparlementaire vient également de condamner l'État congolais à payer. Et même le paiement de cette condamnation-là traîne le pas. Il reste maintenant pour que l'État soit assigné pour une exécution fautive, et que si jamais à l'interne la solution n'est pas trouvée, qu'on monte encore au niveau des instances internationales. Nous conseillons aux animateurs de notre État de pouvoir se soumettre à la Constitution et aux lois de la République pour ne pas administrer une justice à double vitesse pour certains et contre d'autres.
Merci.
Lorsqu'une décision est rendue, il n'appartient pas à une autre instance non juridictionnelle d'en apprécier l'opportunité.
Maître Mouchata, justement, on a terminé.
C'est que nous restons disposés à travailler avec le ministère qui est notre partenaire pour la mise en œuvre de ces recommandations.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite au programme sur Radio Capi.